Le médecin des pauvres, première partie, chapitre 13. Le moine. Frère Malo leva les mains et les yeux vers le plafond, d'un air profondément stupéfait, comme un homme qui entend dire quelque énormité inattendue et qui se demande si son interlocuteur est devenu fou. « Ah ça, mes capitaines ! » s'écria-t-il au bout d'un instant. « Vous n'y pensez pas ?»« J'y pense, au contraire, et c'est dans mon esprit et dans ma volonté une chose arrêtée irrévocablement. Vous courez à un danger certain et sans compensation, car vous pensez bien que les gens de garde ne vous laisseront pas entrer. Et pourquoi cela ? Parce que le laissez-passer, dont les expressions sont formelles, parle d'un moine et non d'un capitaine. Frère Malo, dit l'accusant en souriant, il me paraît que lorsqu'on interrompt votre premier sommeil, la lucidité de votre intelligence s'en ressent. N'avez-vous donc pas encore compris que je ferai cette nuit mentir le vieux proverbe ? Frère Malo ouvrait de plus en plus ses yeux étonnés. « Quel proverbe ? » demanda-t-il. « Celui-ci, l'habit ne fait pas le moine. »« Ah ! » dit Malo, « vous ferez mentir ce proverbe ? » ?»« Oui. Devinez-vous ? » ?»«
Non. »
L'accusant se mit à rire. « Ah, frère Malo ! » s'écria-t-il ensuite. « Bienheureux les pauvres d'esprit. »« Quia regnum coli abubant. » acheva le moine, ou en langue vulgaire, parce qu'ils auront le royaume des cieux. Et je vous en promets votre large part, mon bon frère, poursuivit l'accusant. Eh bien, puisqu'il faut tout vous expliquer depuis A jusqu'à Z, comprenez donc que je vais endosser votre robe, rabattre votre capuchon sur mon visage, et que les soldats suédois, à qui je présenterai ce laissez-passer de leur général, ne s'inquiéteront guère de savoir si la robe et le capuchon cache un capitaine au lieu de couvrir un moine.
« Tiens, 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 » fit le religieux, « mais c'est une idée, cela. »«
J'en ai quelquefois, » répondit l'accusant en riant toujours. « Celle-ci est bien simple et facilement réalisable. Allons, frère Malo, donnez-moi vite votre froc. Vous le disiez vous-même tout à l'heure, il n'y a pas de temps à perdre. » Le religieux se mit en devoir de détacher docilement le cordon qui lui servait de ceinture. Mais le curé marquis intervint.
« Jean-Claude, dit-il, ce que tu veux faire est insensé. Barros et moi, nous devons nous y opposer de tout notre pouvoir, et nous nous y opposons, en effet. »«
Pourquoi cela, mon père ? » demanda l'accusant avec douceur. « Parce que, lorsque des intérêts immenses et sacrés sont attachés à la vie d'un homme, qui, devenu chef de parti, appartient à son parti et non plus à lui-même, cet homme, en hasardant sa vie sans nécessité, commet plus qu'une folie. Il commet un crime. » « Quel que soit ton déguisement, Jean-Claude, il y a danger pour toi à pénétrer au milieu de nos ennemis acharnés et à descendre dans le cachot de ton oncle. Or, le capitaine Lacuzon, l'homme qui commande les bandes de partisans montagnards, l'homme de qui le nom seul est un cri de guerre et de victoire, ne doit point courir cet inutile danger.
« Mon père, répondit le capitaine, vous n'avez le droit ni de douter de ma tendresse pour vous, ni de mon respect pour votre expérience, ni de ma déférence pour vos avis. Mais vous savez aussi combien ma volonté est inébranlable lorsqu'il s'agit de remplir ce que je crois un devoir. Eh bien, c'est un devoir pour moi d'aller cette nuit dire à Pierre Prost, au frère de mon père, que ses défenseurs ne s'endorment point et qu'il les trouvera armés et prêts à combattre entre lui et le bûcher de la place Louis XI. Vous me parlez de danger ? Est-ce ma faute à moi si le danger m'attire ? Ah, s'il ne s'agissait comme de coutume que de mettre l'épée au vent et de courir sus aux Français ou aux Suédois, en criant « À moi, l'accusons, l'accusons !» Je vous obéirai peut-être, mais retrouverai-je jamais ce péril étrange et nouveau qui s'offre cette nuit. Aurais-je à pénétrer sans armes parmi ceux-là même qui ont mis ma tête à prix ? Aurais-je à descendre de longs escaliers souterrains, à courber ma tête sous des voûtes humides, à entendre grincer les clés dans les lourdes serrures, à pénétrer dans un cachot dont la porte se refermera sur moi. Non, jamais. Colonel Varros et curé marquis, n'essayez donc pas de me retenir, car vous n'y parviendriez point, et cette aventure sera la plus belle des aventures de l'accusant.
Enfant, s'écria le prêtre, et c'est pour un aussi futile motif que tu veux hasarder ta vie?
J'en ai un autre, répliqua le capitaine, et celui-là, vous le trouverez sérieux et suffisant. Mon oncle m'a dit un jour, et je vais vous répéter ses propres paroles, « Si jamais je me trouve, à ta connaissance, en péril mortel, viens à moi, Jean-Claude, car je suis dépositaire d'un secret de vie et de mort, et je veux te confier ce secret avant de m'en aller de ce monde. » Vous voyez, curé marquis, vous voyez, colonel, que l'ordre de mon oncle est formel, et que sous peine d'être un mauvais parent, je dois m'y conformer. « Va donc, » murmura le curé, vaincu par les dernières paroles de l'accusant. « Il ne nous reste qu'à prier Dieu de te protéger. »« Demandez-le-lui, et il vous l'accordera, » dit le capitaine, « car jamais voix plus noble et plus sainte ne sera montée jusqu'à lui. » Puis se tournant vers le moine, qui avait assisté au débat avec une somnolence manifeste, il ajouta « Mon bon frère Malo, j'attends votre robe. » Une minute après, le capitaine était de la tête aux pieds travesti en religieux. « Est-il possible de me reconnaître sous ce costume ? » demanda-t-il après avoir rabattu le capuchon sur son visage. « Non, si les Suédois sont sans défiance, » répondit le curé marquis. « Mais je crains toujours. » « Dans une heure, je reviendrai vous rassurer. »« Prends-tu des pistolets ? » ?»« Non, il serait pour moi plus compromettant qu'utile. » « Emporte au moins ce poignard. » « Volontiers. Je vais le cacher dans la large manche de mon froc. Là, de cette façon. Maintenant, adieu à mon tour, ou plutôt, au revoir, et à tout à l'heure. » Le capitaine, l'accusant, sortit de la chambre, et nos quatre personnages, Marquis, Varose, Raoul et le père Malo, prirent place sur des escabelles devant le foyer. Tous les quatre étaient silencieux. Colonel Varose et le curé Marquis pensaient à l'accusant. Raoul de Champdivert pensait à Églantine. Le bon frère Malo, qui ne pensait à rien, s'était endormi. Nous avons dit plus haut que le trésor de l'abbaye de Saint-Claude renfermait des richesses immenses, fruits des offrandes pieuses que les pèlerins de tous les rangs venaient déposer sur la châsse qui contenait les reliques du Saint-Évêque afin d'obtenir quelque grâce par son intercession réputée toute-puissante. Le bruit public, la rumeur populaire grossissait encore ces richesses, et du trésor de l'abbaye faisait quelque chose de semblable à ces fabuleux amas de pièces d'or et d'argent et de pierres précieuses que renfermaient ces souterrains magiques dont la lampe merveilleuse des contes arabes livrait l'entrée au jeune Aladdin. Le désir, facile à comprendre, de puiser à sa volonté dans des coffres si bien remplis, n'avait pas peu contribué à décider le comte de Guébriant à tenter un coup de main sur la ville de Saint-Claude. Nous savons déjà que malgré les efforts d'une résistance désespérée, ce coup de main avait complètement réussi. Tandis que Suédois aigris assouvissaient à qui mieux leur soif insatiable de brigandage et organisaient de toutes parts le pillage et au besoin l'assassinat, un fait d'une très grande importance pour notre récit avait passé complètement inaperçu au milieu des rumeurs d'agonie de la cité conquise. Une bande d'une douzaine de gris, abandonnant les chances de fortune que leur offrait le sac de Saint-Claude, ce qui était, on en conviendra, tout à fait en dehors des habitudes de ces honnêtes soudards, avait gagné le bas de la ville et, traversant la Bienne à ce même gué que nous connaissons déjà et en face duquel nous avons vu Garbas jeter une échelle de corde à l'accusant et à Raoul, s'était élancé d'un pas rapide sur les versants de la montagne opposée où il n'avait point tardé à se perdre dans les bois. Le gigantesque et hideux Lespinassou se trouvait à la tête de cette bande. Mais au lieu d'en être le chef et le maître absolu, comme toujours, il semblait marcher sous les ordres d'un personnage qui l'accompagnait. Ce personnage était un homme de très haute taille. Il avait le visage caché par un masque d'acier recouvert de velours noir. Ce masque lui emboîtait la tête tout entière, comme les casques de bataille des chevaliers du Moyen-Âge, et cachait non seulement sa figure, mais encore ses cheveux et son cou. Cet homme, mystérieux et célèbre acteur des guerres de la conquête franc-comtoise, était le héros d'une foule de légendes qui, le soir en hiver, se racontait d'une voix tremblante à la veillée des chaumières. Personne, disait-on, n'avait jamais vu le visage de cet homme. Personne ne savait son nom. Personne ne connaissait sa demeure. Pareil au chacal africain, pareil au grand vautour chauve qui ne manque jamais de se trouver partout où se rencontrent la mort et le sang répandu, le masque noir n'apparaissait parmi les montagnards épouvantés que dans des scènes de carnage et d'incendie, et entouré d'infâmes gardes du corps, choisi parmi les grilles les plus sanguinaires et dirigé par les Spinassous. Le peuple regardait le masque noir comme un être surnaturel, comme un démon à forme visible, contraint de cacher son visage parce que ce visage n'avait rien d'humain. Peut-être cette terreur superstitieuse qui l'inspirait aurait-elle suffi pour le protéger, mais par excès de prudence, il ne marchait jamais qu'entouré de sa horde fidèle. Plus d'une fois, des gens d'une hardiesse et d'une habileté à toute épreuve, parmi lesquels il faut citer l'accusant lui-même, s'étaient jurés de savoir enfin quel était cet homme et de découvrir le visage qui se cachait sous son masque noir. Le courage, la persévérance, la connaissance du pays, tout avait échoué, suivi de près 20 fois, pourchassé, pour ainsi dire, pendant des journées entières, ainsi qu'une bête fauve que la meute ne perd pas de vue, le masque noir avait toujours disparu subitement, comme une vapeur ou comme un fantôme, sans laisser derrière lui une trace, un indice. C'était à croire en vérité à quelque surnaturelle intervention. Le jour de la prise de Saint-Claude, il était entré dans la ville en triomphateur. Puis, immédiatement après, nous l'en avons vu ressortir avec l'Espinassou et sa bande et s'enfoncer dans la montagne. « Ah ça ! » demanda-t-il chemin faisant au capitaine balafré des soldats bandits. « Êtes-vous bien certain au moins que nous n'allons pas faire buisson creux ?»«
Certain, monseigneur, oh parfaitement certain. »
« Ainsi, vous ne mettez pas en doute l'exactitude des renseignements qu'on vous a donnés. »«
Comment mettrais-je en doute cette exactitude, puisque c'est moi-même qui ai vu ?»«
Vous avez vu cet homme ?»«
Comme je vous vois, monseigneur. Voici de quelle façon la chose s'est passée. »
Pied de fer, le lieutenant de l'accusant, et ce damné Garbas, son trompette et son bras droit, avec une demi-douzaine de cuanais, donnaient la chasse à moi et à deux de mes hommes, Trensaquille et Franck Atrépa. Il y a de cela 8 jours. Nous étions séparés dans la forêt pour mieux dépister ces limiers maudits. Je m'étais pour ma part réfugié dans un taillis très épais, au pied d'un grand rocher presque à pic. La nuit tombait, je n'avais plus rien à craindre. Je sortis de ma cachette et j'allais m'éloigner quand j'entendis un bruit léger au-dessus de moi. Je levai la tête et je vis en haut du rocher un filet de fumée blanche qui montait dans les sapins. Je tournai le rocher, inaccessible de 3 côtés, il était abordable du 4e. Je gravis la pente escarpée et je trouvai sur le sommet du pic une chaumière placée là comme un nid d'aigle. Je regardai dans l'intérieur, à travers les fissures des planches mal assemblées qui formaient la porte. Je vis un homme assis devant le feu et à la lueur de ce feu, je reconnus Pierre Prost, qu'on appelait jadis dans le pays le médecin des pauvres.
« Vous avez dû vous tromper, l'Espinassou. »
« Ma foi, monseigneur. » S'il vous convient de parier 20 écus d'or contre ma tête, je suis tout prêt à en tenir le pari.
Ce Pierre Prost a cependant disparu depuis près de 20 ans.
Qu'importe, monseigneur.
On s'en va, mais quand on n'est pas mort, on revient.
Il est revenu.
Savez-vous depuis quand?
Je m'en suis informé. Pierre Prost a reparu il y a juste 3 mois.
Seul?
Oui, monseigneur.
Mais sa fille, cette Églantine.
« J'ai bien pensé que cela vous intéresserait, monseigneur, et j'ai questionné. »«
Et vous avez appris ?»«
Qu'Églantine était morte dans le bas pays, aux environs de Dôle. »«
Si les choses sont réellement ainsi, tout est pour le mieux. »«
Arrivons-nous ?»«
Voilà le rocher, la cabane est là-haut. »«
Recommandez le silence à vos hommes et prenez toutes vos précautions. »« Il ne faut pas qu'ils puissent nous échapper. »«
Soyez sans crainte, nous le prendrons comme un lièvre au gîte. »«
Qu'allons-nous en faire, monseigneur ?»
L'emmener prisonnier à Saint-Claude. Il sera condamné comme espion et brûlé vif dans 3 jours sur la place Louis XI.
« Ah !» fit l'Espinassou d'un ton de surprise.
« Est-ce que cela vous étonne ?» demanda le masque noir.
« Franchement, oui, monseigneur.
Pourquoi »« Pourquoi ?»«
Parce que lorsqu'on veut se débarrasser d'un homme gênant, le plus simple et le meilleur moyen est de lui mettre la balle d'un mousquet dans la tête ou la pointe d'un couteau dans le ventre. Les morts ne parlent pas. »
« Vous avez raison, et en effet, cela vaudrait mieux ainsi. Mais nous avons besoin que Pierre Prost meure publiquement, avec éclat, sur un bûcher. Nous pensons que le supplice public de l'oncle du capitaine l'accusant produira un immense effet sur les populations des montagnes et les démoralisera plus vite et mieux qu'une demi-douzaine de défaites.
Ah, si vous pouviez nous livrer l'accusant lui-même, ou Varose, ou Marquis. Souvenez-vous qu'il y a 1000 écus d'or attachés à chacune de ses têtes.
« La somme est ronde, monseigneur.
On fera de son mieux pour la gagner. Mais, chut, voici la chaumière. En attendant que nous ayons le neveu, contentons-nous de l'oncle. » Espinassou fit cerner la maison par ses routiers et jeta lui-même la porte en dedans d'un seul coup de la crosse de son mousquet. 5 minutes après, Pierre Prost, bâillonné et garrotté, était entraîné, ou plutôt emporté vers la ville. Le masque noir, tandis qu'on exécutait ainsi ses ordres, s'était tenu à quelque distance, mais pas assez loin cependant pour n'être point vu par Pierre Prost. Une fois à Saint-Claude, on avait jeté le malheureux médecin dans le plus profond des cachots de l'abbaye, et tandis qu'on lui faisait descendre les degrés humides qui conduisaient à ce cachot, il avait entendu le masque noir défendre sous peine de mort aux soldats suédois qu'on lui donnait pour gardien de laisser qui que ce fût communiquer avec lui, à l'exception d'un confesseur s'il en demandait un à son heure suprême. Pierre Prost s'était soumis avec un calme profond, avec une résignation sans bornes, au coup foudroyant qui le frappait. Il devinait d'où venait ce coup, et comme il comprenait bien que rien au monde, à moins du plus improbable de tous les miracles, ne pourrait le soustraire à la mort suspendue au-dessus de sa tête, il acceptait cette mort comme une chose prévue à l'avance, comme une inévitable conséquence de faits accomplis dans le passé. Une seule circonstance semblait l'étonner, c'est qu'on ne hâta pas davantage l'heure de son supplice. Il était doux et patient avec ses gardiens, qu'il n'interrogeait même pas. Il priait presque sans cesse, et il trouvait dans la prière la consolation et le repos. Parfois, cependant, son front se ridait sous le coup d'aile d'une pensée douloureuse. Sa main crispée s'appuyait sur sa poitrine. Un sourire plein d'amertume soulevait sa lèvre, et il murmurait « mon Dieu, souffrirez-vous donc que ce secret meure avec moi ?» Le médecin des pauvres, chapitre 14. Le secret de Pierre Prost. Cependant, le temps passait. De jours et de nuits s'étaient écoulés, et Dieu semblait ne point entendre l'ardente prière de Pierre Prost. Le troisième jour, dans la matinée, le montagnard eut à subir un simulacre d'interrogatoire, après lequel il apprit ce que tout le monde savait depuis longtemps dans la ville, c'est-à-dire qu'il était condamné à mort comme espion, et qu'il serait brûlé vif le lendemain au point du jour. À partir de ce moment, les pensées de Pierre Prost n'appartinrent plus à la terre. Son âme se détacha de toutes les choses de ce monde, et il ne songea, après avoir bien vécu, qu'à se préparer à bien mourir. « Quand pourrais-je recevoir le confesseur qui m'est accordé ? » demanda-t-il à l'un des gardiens qui le ramenait dans son cachot. « Cette nuit, » répondit le soldat. La nuit arriva, et tous ces bruits du jour qui retentissaient sous les voûtes des vastes bâtiments de l'abbaye, et dont l'écho faible et lointain descendait jusqu'aux prisonniers, se turent les uns après les autres. Vers minuit, Pierre Prost n'entendit plus que le pas lent et monotone de la sentinelle qui passait et repassait devant la porte étroite et basse de l'oubliette où, couché sur une botte de paille, il attendait la venue du prêtre consolateur. Les heures se succédèrent sans rien amener. Pierre Prost commençait à craindre que le confesseur ne vînt pas et que le masque noir, dans sa défiance de toute chose, n'eût retiré l'autorisation qu'il avait accordée d'abord. Enfin, un peu après 3 heures du matin, un bruit vague arriva jusqu'au captif et vint ranimer ses espérances défaillantes. Il se souleva sur son coude, il retint sa respiration et l'écouta. Le bruit se renouvela plus distinct. Les pas de plusieurs personnes s'approchaient du cachot. « Ce ne peut être déjà le bourreau, » pensa Pierre Prost. « C'est donc le prêtre. » Les pas s'arrêtèrent. La clé gronda dans la serrure, les verrous grincèrent, la porte s'ouvrit. Un moine parut sur le seuil entre 2 soldats. Un des soldats portait une lanterne. « Voilà l'homme, » dit-il au moine en lui montrant Pierre Prost et en posant la lanterne sur le sol. « Vous avez 1 heure. Dépêchez-vous de le confesser et de l'absoudre. » Et il sortit avec son compagnon, en riant et en refermant à grand bruit serrures et verrous. « Oh, mon père !» murmura Pierre Prost, qui joignit les mains. « Je vous attendais, et je vous appelais comme le prisonnier qui va mourir, attend et appelle la vie et la liberté. C'est qu'en effet, c'est la vie et la liberté que je vous apporte, » répondit le moine d'une voix basse qui fit tressaillir le captif. « Qui donc êtes-vous ? » demanda ce dernier, haletant d'émotion. « Silence, » dit le moine, « silence. Songez que derrière cette porte fermée, il y a peut-être des oreilles attentives qui guettent nos paroles. » Et saisissant la lanterne que le Suédois avait posée sur les dalles, il l'éleva d'une main à la hauteur de son visage, tandis que de l'autre, il rejetait en arrière le capuchon qui jusqu'à ce moment avait caché ses traits. « Jean-Claude !» balbutia Pierre Prost. « Toi, mon enfant, toi ici ?»« Silence, mon oncle !» répéta le capitaine. « Une parole prononcée trop haut peut nous perdre tous deux. » « Ainsi c'est bien vrai, cher fils de mon cœur, » continua le prisonnier avec une indicible émotion. « Tu n'as pas voulu me laisser mourir sans m'avoir donné cette consolation suprême de te serrer une dernière fois dans mes bras ? Oh, merci, merci ! Va, tu me rends bien heureux, tu fais ma mort bien douce. Je vous ai dit, mon oncle, que je vous apportais la vie et la liberté. » « La liberté, la vie, » répéta Pierre Prost, « est-ce bien possible ? Dans quelques heures, ne le sais-tu pas, la sentence qui me condamne aura reçu son exécution. » Dans quelques heures, mon oncle, ceux qui vous ont condamné seront tombés à votre place. Dieu est juste. Mais comment ? Ne m'interrogez pas, car le temps nous est mesuré. Je vous dis seulement, espérez. Et quand bien même vous vous verriez sur le bûcher, enveloppé déjà dans des tourbillons de flammes et de fumée, je vous dirais, espérez encore. Maintenant, mon oncle, il faut tout prévoir. Dieu tient la vie des hommes dans sa main, et il peut faire échouer les projets les mieux conçus et dont la réussite semble le plus assurée. Vous m'avez parlé jadis d'un secret de vie et de mort dont vous étiez le dépositaire, en m'enjoignant de venir vous le demander si jamais je vous voyais en péril. Le péril existe, et me voici prêt à vous entendre. Écoute-moi donc, et tâche qu'entre tes fortes mains, ce secret devienne une arme contre l'homme qui me tue aujourd'hui, et qui, j'en ai la conviction douloureuse, est un des plus terribles ennemis de la liberté franc-comtoise. « Quel est cet homme ? » demanda le capitaine. « Le masque noir, » répondit Pierre Prost. « Comment ? » s'écria le jeune homme stupéfait. « Le masque noir joue un rôle dans votre vie ?»« Oui, mon enfant, et non seulement dans ma vie, mais encore dans l'existence de ma famille, qui est la tienne. »« C'est étrange, » murmura l'accusant. « Oui, et plus étrange encore que tu ne pourrais le croire. » « Tu vas tout savoir, et tu verras que dans les faits que j'ai à te raconter, la vérité prend les allures d'une fiction inventée à plaisir. Par le premier mot d'ailleurs, tu peux juger du reste. Églantine n'est pas ma fille. » Le capitaine regarda Pierre Prost d'un air qui signifiait clairement « Est-ce que vous devenez fou, mon oncle ?» Le médecin des pauvres ne se méprit point à la signification de ce regard. Il secoua doucement la tête et il répondit « Non, mon enfant, j'ai toute ma raison. Quoiqu'il m'ait fallu traverser dans ma vie des épreuves assez rudes pour désorganiser une tête plus solide que la mienne. Tu vas voir. Mais comme tu le disais tout à l'heure, notre temps est mesuré. Laisse-moi donc parler, et fais en sorte de ne pas m'interrompre, car il importe que tu connaisses mon secret tout entier. » Le capitaine fit un geste d'acquiescement, et Pierre Prost commença le récit rapide des événements de la nuit du 17 janvier 1620, événements que nous avons racontés dans le prologue de ce livre. Pendant les 2 années qui suivirent cette nuit terrible, dit-il en terminant, rien ne vint troubler la paix profonde dont je jouissais dans ma maisonnette de Longchaumois. Mais j'étais sous le coup de terreurs incessantes. Je me réveillais brusquement la nuit, et il me semblait voir des assassins autour de mon lit et près du berceau d'Églantine. Je me figurais qu'un jour ou l'autre le masque noir se repentirait de m'avoir témoigné une sorte de confiance et voudrait ensevelir à tout jamais dans une tombe le secret dont j'étais le seul dépositaire. Cette conviction, devenue dans mon esprit une idée fixe, m'obsédait sans relâche. Je ne tremblais point d'ailleurs pour moi-même, mais pour cette chère enfant que j'aimais avec un cœur et une sollicitude de père. Voulant me soustraire à tout prix à ces dévorantes inquiétudes, je me décidai à quitter le pays, et en même temps, je résolus d'entourer mon départ, ou plutôt ma fuite, d'un impénétrable mystère. J'allai donc trouver mon frère, qui était ton père, Jean-Claude. Je le mis au fait de mes projets, mais sans lui en révéler les véritables motifs que j'avais juré de taire. Je lui dis que j'allais partir pendant la nuit, en laissant ma maison à l'abandon. Je lui demandai de paraître ignorer comme tout le monde l'endroit où j'irais chercher un asile, et je le priais, quand 1 année ou 2 se seraient écoulées, de répandre peu à peu et avec habileté le bruit de ma mort.
Toutes ces choses eurent lieu ainsi que je le souhaitais. Les gens qui m'avaient connu et aimé dans nos montagnes récitèrent un De Profondis et firent brûler un cierge pour le repos de mon âme. Puis on cessa de penser à moi. La Rose, Marquis et mon frère furent seuls dans le secret de ma retraite, et ce secret ne te fut confié que lorsque ton âge permit de compter d'une façon absolue sur ta discrétion. Bref, je croyais ne jamais quitter cette chaumière de la forêt de Chaux où tu es venu me voir quelquefois. Mais lorsque les troupes françaises envahirent le pays, la merveilleuse beauté d'Églantine devint un danger terrible. Pendant plusieurs mois, nous fûmes protégés par un bon et noble jeune homme, un officier français qui se nommait Raoul Marcel et qui, je le crois bien, n'avait pu voir ma chère fille sans l'aimer. Mais du plus respectueux, du plus discret de tous les amours. Malheureusement, cet officier fut forcé de quitter la Franche-Comté à la suite de Monsieur de Villeroy, son général. La sécurité que devait nous inspirer sa présence disparut en même temps que lui. Durant un peu de temps encore, j'espérais conjurer le péril en cachant Églantine à tous les regards. C'était chose impossible. D'autres officiers, mais qui n'étaient ni discrets ni respectueux ceux-là, virent ma fille par hasard et la trouvèrent belle. Quelques mots échangés entre eux, et que je surpris, me firent comprendre qu'ils songeaient à un enlèvement et à des violences infâmes. Ce jour-là même, Églantine reprenait le chemin de nos montagnes et demandait de ma part au curé marquis de la recevoir chez lui et de la faire passer pour sa nièce. 3 mois après, je revenais seule. Je répandais le bruit que ma fille était morte au bas pays et je m'établissais dans un chalet abandonné sur un des pics de la montagne qui fait face à la ville. Là, selon toute apparence, aucun danger ne pouvait m'atteindre. Et cependant, j'avais le pressentiment d'un prochain malheur. Pressentiment qui ne fut pas trompé. Tu sais le reste. Il y a 3 jours, une bande de gris, en apparence sous les ordres de l'Espinassou, mais commandée en réalité par le masque noir, s'emparait de moi et m'amenait ici garrottée. « Quoi, mon oncle ? » s'écria l'accusant. « Le masque noir ? Cet être mystérieux et insaisissable ? Celui que moi-même j'ai poursuivi si souvent sans pouvoir l'atteindre ? C'est l'homme de la nuit du 17 janvier 1620 ? C'est lui. Vous êtes bien certain de cela, mon oncle ? Comme je le suis de croire en Dieu. Je l'ai reconnu du premier coup d'œil. J'ai reconnu sa voix, son geste. C'est lui, te dis-je. C'est le seigneur de ce château où j'ai été conduit et dont une des voûtes doit conserver encore l'empreinte de ma main sanglante. Et d'ailleurs, quel autre que lui me poursuivrait d'une haine aussi acharnée ? Quel autre voudrait m'anéantir pour anéantir en même temps le terrible secret que je possède ? Mais alors, murmura l'accusant d'une voix indistincte, absorbé qu'il était par une pensée nouvelle, se faisant jour dans son esprit. Mais alors, ce seigneur au masque noir serait donc ce même homme dont m'a parlé Raoul de Champdivier ? Oh, si cela était! Mais non, c'est impossible! Impossible, puisque Raoul affirme que le vieux Marcel a reconnu le sire de Montaigu, et puisque Antide de Montaigu est l'un des ardents défenseurs de nos libertés. Ma tête s'égare dans ce dédale. Oh, qui donc me donnera la clé de tous ces ténébreux mystères? Qui donc arrachera ce masque? Qui donc me mettra face à face avec cet infâme inconnu, à visage découvert et l'épée à la main? Puis après 1 ou 2 secondes de silence, le capitaine reprit à voix haute. « Et le bijou, mon oncle, ce médaillon que vous remit la malheureuse mère, l'avez-vous conservé ? Certes, je ne m'en suis séparé jamais. Où est-il ? Là, sur ma poitrine, et je vais te le donner. » Pierre Prost entr'ouvrit son pourpoint et sa chemise et brisa le cordon qui suspendait à son cou le médaillon enveloppé dans un sachet de peau. « Prends-le, » dit-il en le tendant à l'accusant, « et si je meurs victime de cet homme, tâche qu'il t'aide à me venger. » Le capitaine allait répondre. Un bruit de pas arrêta les paroles sur ses lèvres. L'heure était écoulée et les soldats suédois venaient faire sortir le moine du cachot. « Adieu, pour jamais peut-être, » murmura Pierre Prost en embrassant son neveu avec effusion. « Et moi, mon oncle, » murmura rapidement le jeune homme, tandis qu'on ouvrait la porte lourde et doublée de fer. Et moi, je vous dis à bientôt. Espérez, espérez. » Tout en parlant ainsi, il avait fait retomber le capuchon de son froc sur son visage. Les Suédois entrèrent. « Espérez, mon frère, » répéta tout haut le capitaine pour la 3e fois, « et que la paix du Seigneur soit avec vous. » Et il suivit les 2 gardiens.
Quand il sortit du cloître, 5 heures du matin sonnaient au beffroi de l'abbaye. Le jour était loin encore, et cependant une foule curieuse et épouvantée se pressait déjà sur la place Louis XI, autour du bûcher dressé depuis la veille, afin de conquérir par la patience les meilleures places pour ce funèbre spectacle donné gratis au peuple de Saint-Claude par cette prétendue justice militaire dont la volonté implacable du masque noir avait dicté l'arrêt. Çà et là, parmi les groupes, erraient des montagnards appartenant au corps franc de l'accusant. Ces hommes étaient bien déguisés et bien armés sous leur déguisement. Le capitaine les reconnaissait tous en passant à côté d'eux, mais il n'adressa à aucun ni une parole ni un geste, et il regagna d'un pas rapide cette maison basse de la Grand-Rue, dans laquelle il avait laissé le colonel Varoz, le curé Marquis, Raoul de Champdivert et cet excellent frère Malo qui faisait tant de cas des richesses monacales et des bons vieux vins. Ajoutons que depuis le départ du capitaine, il ne s'était pas réveillé, et cependant, sa vie en ce moment était en jeu aussi bien que celle de l'accusant, à qui il avait prêté sa robe et donné son laissez-passer. Et il le savait. L'histoire nous parle avec une exaltation hyperbolique de Turenne s'endormant la veille d'une bataille sur l'affût d'un canon. Faut-il conclure de ce qui précède que le bon frère Malo fut aussi héroïque que le vainqueur de Malplaquet? Nous ne prétendons formuler aucune opinion à cet égard.